RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. Depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire depuis 3 mois, quelque 85 000 Ukrainiens réfugiés ont rejoint la France depuis le début de ce conflit. Et parmi ces 85 000, beaucoup ont été accueillis, notamment dans des familles, dans des foyers. Et on va pouvoir en parler ce matin. Témoignages à l'appui, bien sûr. Vos témoignages sont attendus dès maintenant au 04 72 38 20 23. Si vous avez accueilli des exilés ukrainiens dans votre foyer ou si vous en accueillez actuellement, venez nous raconter votre expérience. Parlez-nous de cette démarche. Est-ce que c'était peut-être en lien avec une association? Enfin, connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui ont fait cette démarche? Et alors, comment ça s'est passé? 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr et vos messages toujours dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et avec nos chroniqueurs qui chaque jour viennent prendre la parole pour nous parler de moyens d'agir, c'est ce que fera dans quelques minutes notre chroniqueur à 10h20. Il nous parlera de l'Amazonie au Pérou avec le CCFD Terre Solidaire. Ce sera à 10h20. Et puis un petit peu plus tard, 10h50, Lauriane Clément de Phosphore Magazine nous rejoindra également avec une très très belle initiative portée par des jeunes qui traquent le gaspillage d'énergie dans leur lycée. Ce sera donc à 10h50. Et pour discuter avec nous jusqu'à 11h des réfugiés ukrainiens et l'accueil ici en France, on a le plaisir d'accueillir tout au long de cette émission plusieurs invités. Tout d'abord Pascal Dubus. Bonjour Pascal.
Bonjour Melchior.
Est-ce qu'on dit Dubus comme un bus ou Dubus?
Bon, tu dis comme tu veux, une fois que tu m'appelles Pascal, après le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Bon, on fait ça, il n'y a pas de souci. Pascal, vous êtes agriculteur, vous vivez dans le Pas-de-Calais et avec votre compagne, vous hébergez depuis quelques mois, quelques semaines, des réfugiés ukrainiens. Vous allez nous raconter, Pascal, cette expérience dans un instant. Deuxième invité qui nous a rejoint, c'est vous, Daria Violette. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints en direct sur RCF. Alors, vous, l'expérience est finie, on peut le dire pour vous, puisque voilà, vous avez hébergé pendant quelques semaines des réfugiés ukrainiens. Comment ça s'est passé, Daria, et surtout, comment est venue l'idée pour vous?
En gros, l'expérience n'est pas finie parce que la guerre n'est pas encore finie.
Oui.
Et même si les réfugiés, oui, ils ont vécu chez moi, c'est une famille de 5 personnes, plus les animaux, ils ont vécu chez moi pendant 1 mois. Et après, grâce aux efforts de la mairie des voisins Le Bretonneux, on a réussi à leur trouver un logement. Donc maintenant, ils habitent dans leur maison, à proximité de moi. Donc je continue à m'occuper de cette famille, de leur apporter de l'aide et... Également, il y a encore une autre famille avec laquelle je fais connaissance quand j'étais traductrice bénévole à la base de loisirs à Trappes. J'ai rencontré une famille qui a passé un parcours extrêmement difficile en quittant leur ville, Tchernihiv. Ils ont été visés et malheureusement, le père de la famille, il a été tué au volant. Et donc, il y a une petite fille de 3 ans qui est restée orpheline, et ils avaient vraiment besoin de calme, de l'aide. Et donc la deuxième maison qui a été donnée encore généreusement par la mairie de Voisin a été livrée à cette famille-là, et je m'occupe aussi de cette famille.
Mais j'aimerais savoir, Daria, pourquoi, enfin, c'est pas une démarche qui est simple, hein, parfois pour tout le monde, mais vous, pourquoi vous vous êtes dit, il y a un moment où, allez, j'y vais, je vais accueillir des réfugiés ukrainiens chez moi, ou en tout cas dans une maison que je connais. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour vous?
Mais parce que moi, je suis ukrainienne, je me sentais complètement aussi impuissante contre cette tragédie, on va dire. Et surtout, je me sentais extrêmement impuissante, quoi que je faisais. Et sachant que ma famille, elle restait en Ukraine et je ne pouvais absolument rien faire pour elle. Et ça me désolait énormément. Donc moi, j'essayais de m'investir dans l'aide pour les autres, pour essayer de rapprocher la fin de cette guerre, la fin de cette horreur je sais pas, par apporter de l'aide, par essayer de trouver la paix.
Et de vous engager à votre tour en solidarité avec les Ukrainiens. Pascal Dubus, même question pour vous et votre épouse, hein, puisque c'est voilà, vous êtes un foyer dans le Pas-de-Calais. Comment ça s'est passé?
Eh bien, on a pris contact avec une plateforme anglaise qui s'appelle Europe for Ukraine.
Oui.
Et on s'est inscrit, on a été sollicité à plusieurs reprises, donc j'ai reçu à peu près une dizaine de sollicitations, je les ai prises dans l'ordre d'arrivée. On a suivi un groupe de 3 femmes et 5 enfants qui étaient en exode et qui avec lesquels on a beaucoup discuté pendant quasiment 10 jours. Et ils ont fini par décider de rester en Tchéquie pour des raisons personnelles, mais ils nous ont dit que ça avait été très fort pour eux que de savoir qu'elles étaient attendues quelque part, même si elles sont pas allées au bout. Ça les a tenues dans la force pour se déplacer, avoir le courage de bouger, etc. Et puis la famille suivante, ça a été 5 personnes, papa, maman et la grand-mère, qui sont arrivées le 31 mars. Et qui sont repartis le 25 avril pour l'Angleterre parce que c'était leur projet. Et puis le 1er avril, on a eu une maman et son fils de 16 ans qui sont arrivés, qui sont encore là chez nous. Donc une grande maison de familiale, hein, à la ferme, une reconstruction de 14. C'est un petit peu un clin d'œil aussi, hein, parce qu'on a été détruits en 14-18. Et on a donné un étage à chaque famille. Voilà, donc c'est l'indépendance complète. On mange ensemble, partage la cuisine, on est en coloc. Mais ils sont chez eux, hein, ils ne sont pas chez moi. Quoi.
Ouais. Et donc ça veut dire que ça a été très rapide pour vous de prendre cette décision
Bah déjà pour les Syriens, je m'étais mobilisé, moi ouais. J'avais pas réussi parce que c'était un peu compliqué, etc. Là, je me suis très vite inscrit sur les plateformes gouvernementales, préfectures, etc. Mais dès que le gouvernement fait quelque chose, ça marche pas. Donc, enfin, sans dire que je suis contre le gouvernement, mais enfin, dès que l'État s'en mêle, c'est le bazar. Donc, c'était beaucoup de lourdeur. Donc, j'ai pris des billets détournés et puis je me suis fait rattraper par. J'ai fait un message dans un groupe Facebook en disant je cherche un moyen de ramener 5 personnes de Pologne à Lille ou en France, quitte à aller les chercher. Je ne me dérangeais pas d'aller à Tours ou d'aller à Bordeaux chercher des gens. Et j'ai eu le contact avec une association qui s'est créée sur le sud de l'Artois, donc là où j'habite. Et aujourd'hui, on est 187 Ukrainiens accueillis dans une cinquantaine de familles, de maisons. Et on a monté une association avec les élus locaux qui ont subventionné et beaucoup de volontariat, beaucoup de bénévolat. Et puis on s'entraîne, on se file les tuyaux, on avait encore une réunion hier soir avec les transporteurs, les gens de la banque alimentaire, les gens du Resto du Cœur, le député, le futur député, peut-être l'ancien député, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu, mais je pense que c'est aussi le résultat d'une structure familiale. Moi je suis le dernier d'une famille de 7 enfants, mon père aurait 102 ans aujourd'hui, mais mon père à 16 ans il a évacué en 40. Après avoir vu 3 fois les Allemands arriver en 70 ans dans notre région, hein, 1870, 1914 et 1940, ma mère a évacué, elle avait 12 ans, mon père avait 16 ans, et ça a marqué nos esprits familiaux, et aujourd'hui on a un devoir de retour, quoi, parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de vivre la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, enfin je veux dire, voilà, donc c'était naturel, quoi. Alors ouais. J'ai la chance de le pouvoir.
Oui.
Il y a des gens qui veulent et qui ne peuvent pas,
parce
financièrement.
Que vous, voilà. Parce que vous avez une grande maison, c'est ça?
Bah, parce que j'ai une grande maison et que 7 personnes à nourrir. Ouais. Bon, j'ai toujours dit, j'ai participé à financer les études de mes enfants, 4 ans, des longues études. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas nourrir 7 personnes pendant un certain temps. Donc, ça représente un vrai budget.
Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire, Pascal Dubus, sur les associations, puisque vous-même, rapidement, vous avez essayé de monter une association pour que ce soit bien organisé. Voilà. Daria Violette, quel regard vous portez sur toutes ces initiatives, toutes ces associations qui permettent de créer une vraie communauté solidaire autour de l'Ukraine, hein, notamment, et bien sûr des réfugiés ukrainiens?
Et je voulais aussi dire qu'avec la famille que j'avais accueillie chez moi, ce sont comme moi aussi les artistes, et donc on va faire un concert caritatif le 30 juin. Et l'argent récolté, ça va aller en Ukraine pour aider à reconstruire un hôpital qui a été détruit à Tchernihiv, et également aider les réfugiés ici en France.
Ouais. Et sur toutes ces associations, Daria,
oui.
Est-ce que vous, oui, vous nous entendez?
Oui.
Oui, Daria Violette, donc ces associations, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez réussi à accueillir des réfugiés grâce notamment à des associations. Il y en a beaucoup qui sont créées, j'ai l'impression, depuis le début du conflit.
Moi, j'étais hors association. C'était les gens qui m'ont appelé en disant « on a besoin d'aide, oui. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc, les gens, ils sont venus chez moi directement sans association. Et après, c'était à l'aide de la mairie des voisins,
oui.
qui m'ont aidé à placer les réfugiés et leur apporter tout nécessaire.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour apporter vos témoignages. Si vous avez accueilli des réfugiés ukrainiens chez vous ou si vous accueillez actuellement, venez nous raconter votre expérience. Pourquoi cette démarche? Est-ce que c'était en lien avec une association? Est-ce que vous connaissez des personnes aussi dans votre entourage qui ont fait cette démarche? On vous attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Pascal Dubus.
Oui, je voulais juste dire une chose. Je pense qu'il y a plusieurs temps dans l'accueil, c'est-à-dire que c'est en lien avec la création des associations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont dans un intérêt commun, ils vont se réunir. C'est comme une espèce de syndicat. On est tous dans les mêmes problématiques de comment on a les papiers, comment on a la CPM, comment on a l'assurance maladie, comment on fait pour traduire, où est-ce qu'on trouve ceci, est-ce qu'on trouve ça. Mais, et je pense, et c'est peut-être important de le dire, il y a eu l'urgence. On a accueilli 7 personnes. 5 sont parties en Angleterre. Et aujourd'hui, il nous en reste 2 à la maison et on n'est pas forcément prêt à reprendre. Alors s'il fallait en urgence, on l'a fait pendant un week-end, mais on ne repartirait probablement pas aujourd'hui avec 7 personnes à la maison parce que vaut mieux peut-être bien faire pour 2, 3 ou 4 que vouloir faire pour beaucoup et à moitié. Aujourd'hui, ces gens qui sont là sont arrivés dans l'urgence, mais il y en a qui vont se poser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont repartir. La guerre est loin d'être terminée. D'accord? On sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Il y a peut-être d'autres gens qui vont devoir venir. On va peut-être en accueillir d'autres. Macron a dit qu'il y avait 400 000 places en France pour les gens. On est à 85 000, donc on n'est même pas à 20%. Mais les gens, quand vous les accueillez, il y a un moment, il faut poser et il faut structurer pour qu'ils trouvent un emploi, pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils puissent passer le permis ou perfectionner la conduite, pour que les enfants aillent à l'école, qu'ils se structurent dans le réseau social. Donc je pense qu'il y a différents temps dans l'accueil, différents tempos. On est passé, moi j'ai le sentiment d'être passé en 2 mois, de l'urgence à la consolidation avec un groupe de 2 personnes,
oui.
Ça aurait pu être 3 ou 4, mais et les associations pour ça sont un élément extrêmement structurant et extrêmement, il y a beaucoup d'entraide et beaucoup de conseils qui sont donnés pour les uns, pour les autres, on voit les problématiques.
Oui.
Et puis la population ukrainienne, c'est la population française, c'est la même, il y a des gens très bien, des gens cultivés, des gens cultes, il y a des gens honnêtes, des gens malhonnêtes, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont réfugiés qu'ils sont mieux que quand ils étaient chez eux, donc ça se passe bien, mais il y a aussi des tensions, il y a parfois des petits soucis.
Oui. Je me souviens rapidement après le début de cette guerre, il y a maintenant 3 mois, on avait fait une émission ici dans Je pense donc j'agis par rapport justement à l'accueil des réfugiés ukrainiens, puisqu'il commençait à y avoir des convois, des personnes qui allaient en Ukraine ou en tout cas aux frontières pour ramener ici en France des personnes qui fuyaient vraiment leur pays. Et rapidement, les associations nous disaient allez-y piano, pianissimo, n'allez pas trop vite, il faut qu'on s'organise. Vous confirmez, Pascal, qu'il y a un vrai besoin d'organisation?
Oui, c'est une organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir 50 ou 70 personnes si on ne sait pas où les loger, si on ne sait pas comment ils vont manger le lendemain, etc. Enfin, les gens qui les ont accueillis sont tous des gens qui ont soutenu financièrement les repas. Enfin, je veux dire, moi, on a fait le budget. Je sais combien ça coûte que d'accueillir des gens chez moi en termes de budget supplémentaire. Donc, on peut pas. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent d'avoir accueilli des gens et de les avoir chez eux et de ne plus pouvoir faire face à leurs propres dépenses de chauffage, d'électricité ou d'eau. Donc bon, puis l'État est complètement absent. Je veux dire, il y a vraiment c'est la faillite absolue de ce côté-là. C'est allez-y mes braves gens, mais vous aurez rien de l'État. Donc l'État n'est pas mobilisé, quoi. Donc oui, il faut structurer avant que les gens arrivent. Et alors il y a une chose qui est très intéressante parce que l'association dont je fais partie, après avoir accepter d'accueillir des gens, dans un deuxième temps, qui est redoutablement efficace, qui est très bien présidé et qui est très bien secondé par des gens de l'administration aussi qui en font partie. elle a rencontré des problèmes parce que l'image de marque des Français à l'étranger n'est pas aussi bonne que celle qu'on imagine et que beaucoup d'Ukrainiens ont refusé de venir en France. Refusé. Parce que l'image, c'est les camps de réfugiés de 104. Avec des tentes et des machins, etc. Et les gens, ils ont vu que ça à la télé. Et ils ont, il y a des gens qui n'ont pas voulu monter dans les voitures.
Hein. Oui.
Donc, c'est pas si simple que ça.
Daria Violette, vous confirmez, vous aviez des proches hein, en Ukraine qu'ont dû quitter le pays rapidement.
Oui, beaucoup de gens qui ont été obligés de quitter, malheureusement. Et, mais par contre, ma famille, elle n'a pas pu faire ça. Donc, j'essaie d'apporter de l'aide aux autres qui ont pu quitter.
Oui, et comment vous apportez cette aide?
Bah déjà, je m'occupe de ces familles qui habitaient chez moi. Je continue à apporter toute l'aide nécessaire, par exemple, s'il faut aller voir les médecins, des démarches administratives, etc. Également avec des collectes que j'envoyais en Ukraine et régulièrement, et aussi avec l'aide de la ville Montigny-le-Bretonneux, on a envoyé une grande collecte en Ukraine et dans la ville qui a énormément souffert, qui a été bombardée, qui n'a pas pu avoir des aides humanitaires, et elle était entourée, et par mes propres chemins, j'ai réussi à trouver les moyens de leur livrer cette aide, et c'était très important et pour moi, et ça m'a apporté quand même un petit soulagement de savoir qu'au moins quelqu'un a pu bénéficier de l'aide.
Michel nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel.
Oui, bonjour. Je pourrais donner mon témoignage.
Bien sûr, on vous écoute. Allez.
J'habite dans un canton qui s'appelle Couiza, dans la Haute-Vallée.
Oui.
Alors moi, j'ai beaucoup traduit à la préfecture pour qu'ils obtiennent leurs documents, puisque je parle le russe et l'ukrainien.
Oui.
Ensuite, au village, il est venu trois Ukrainiennes chez moi, dont on leur a trouvé un logement. Bon, moi, j'ai pas pu les accueillir parce que j'ai des problèmes de santé et une petite retraite. Mais, par exemple, sont arrivées cinq personnes de Mariupol. Elles ont trouvé un logement pour le moment gratuit à 2 kilomètres d'ici. Donc, deux fois par semaine, je vais chez eux, je leur apprends le français.
Et donc, c'est un bel engagement aussi pour vous, Michel. Merci beaucoup d'être venu.
Je voulais dire aussi que hier, il y a eu une réunion de haute solidarité à Limoux. Donc, j'ai amené tout ce monde à Limoux parce qu'il y avait pas mal d'Ukrainiens afin qu'ils fassent connaissance les uns les autres et qu'ils se sentent comme ça plus au courant des choses, quoi.
Oui. Merci Michel d'être venu à l'antenne au 04 72 38 20 23 pour apporter ce témoignage. Pascal Dubus, c'est très intéressant ce qu'a souligné notre ami Michel. Cette barrière de la langue, pour vous, ça a été compliqué aussi de pouvoir communiquer avec les Ukrainiens qui sont arrivés chez vous ?
Non, c'est assez amusant. Il y a une petite anecdote, c'est que pendant 10 jours, on a produit Google Translate ukrainien, ouais. Français ukrainien, et au bout de 10 jours, ils ont dit on va arrêter l'ukrainien parce que tout le monde parle russe, quoi. Hein? Donc donc en fait, on traduit en russe. Bah oui, parce qu'ils sont tous russophones et que l'ukrainien est une langue. Bon, c'est pas la langue la plus répandue, ou en tout cas l'universelle en Ukraine. Voilà. Bon, beaucoup de gens leur parlent, mais il y a beaucoup de mots d'ukrainien où il y a des Ukrainiens qui savent pas ce que ça veut dire. Parce que ils ont tous appris le russe, comme les Polonais de 50 ans ont tous appris le russe, puisque c'était avant la chute du mur, et que c'est comme ça. Donc c'est pas grave. J'ai rien contre le russe. Je suis un petit peu plus fâché contre les Russes, mais un peu
c'est autre chose.
Ouais. Voilà. Non. Alors la barrière de la langue, moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que effectivement, je suis dans une démarche où j'accueille les gens chez moi, mais il y a des gens aussi qui sont dans le secteur, dans des maisons seules, hein, qui en sont hébergés individuellement dans des maisons, ouais. Et c'est très bien. Et je pense que c'est fondamentalement différent. Parce que la barrière de la langue pour eux, c'est une vraie catastrophe, parce que le français n'est pas une langue facile. La conduite, c'est pas facile, et financièrement, ça n'est pas facile.
Pourquoi la conduite, c'est pas facile? Qu'est-ce qui change par rapport à l'Ukraine?
Alors déjà, ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai pu discuter avec les collègues, il y a beaucoup de voitures automatiques en Ukraine, il n'y en a pas beaucoup en France. Et les gens qui ont leur permis en Ukraine, on va dire que c'est un pays un peu bananier, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir le permis, il suffit de payer pour l'avoir.
Ah oui. Ouais.
Une première chose que j'ai expliquée aux Ukrainiens quand ils sont arrivés et qu'ils m'ont regardé avec beaucoup d'étonnement, c'est « il n'y a pas de corruption en France ». Ah bon ? Ils ne donnaient pas 100 balles aux flics si vous faites arrêter, vous n'allez pas mettre 50 euros dans le passeport à la préfecture. Ça ne se fait pas chez nous. Il faut l'expliquer. Hein. Moi, j'ai fait beaucoup d'Afrique pendant 12 ans. C'est clair que, globalement, si vous ne savez pas et que vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez vous faire surprendre. Quoi. Donc, voilà, pas de corruption en France, en tout cas pas au niveau des citoyens, me semble-t-il. Donc, un permis, beaucoup de voitures automatiques, il n'y en a pas beaucoup en France. Les Français ne sont pas très tolérants sur la route par rapport aux jeunes conducteurs ou par rapport aux gens qui connaissent pas très bien le parcours. Et je pense que on est dans une situation où les gens sont demandeurs d'emploi, sont demandeurs d'activité, ne savent pas s'ils vont rester un mois, deux mois, six mois, dix mois, dix ans. Donc c'est très compliqué pour se projeter. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Veulent apprendre le français, c'est pas facile. Et une forme d'isolement. C'est pour ça que les associations sont extrêmement importantes pour que les gens puissent se retrouver et qu'il y ait de l'entraide. Bon, après, ils servent très bien leur smartphone comme nous, sur Viber ou Telegram, pour les communautés complètes de gens qui discutent.
Daria Violette, dernière question, après on vous libère, hein, c'était prévu, pour parler de l'accueil des réfugiés ici en France. C'est intéressant ce que disait Michel sur cette communauté de traducteurs aussi, ce réseau de traducteurs qui s'est rapidement mobilisé pour établir un lien social très rapidement.
Bah, disons que ces traducteurs, ce sont les Ukrainiens qui habitent en France et qui ont été bénévoles à apporter de l'aide, donc à venir traduire, parce qu'il est vrai que c'est extrêmement difficile et pour les Français et pour les Ukrainiens à essayer de communiquer. Donc même un simple passage chez le médecin ou même dans les administrations, c'est compliqué, ça complique parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et donc là, les bénévoles, on va dire, ils sont réunis pour apporter cette aide. Et c'est comme ça aussi que je rencontre d'autres familles que j'essaie de leur apporter aide comme moi je pourrais le faire de mon mieux. Et moi également, j'ai trouvé un professeur de français qui est bénévole, qui est une Française, qui a décidé de venir deux fois par semaine à ces deux familles et leur apprendre le français. Et donc, ils font en ce moment actuellement de très grands efforts à apprendre cette langue et pour essayer de communiquer de leur côté plus facilement avec la France, avec les Français qui sont extrêmement généreux et qui apportent beaucoup de soutien.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Daria Violette d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes dans Je pense donc j'agis. Pascal Dubus, vous restez avec nous hein, jusqu'à 11h ce matin. Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole pour participer à cette émission, tout comme Michel qui est venu à l'antenne il y a quelques minutes. Venez nous parler de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Est-ce que vous avez accueilli des réfugiés chez vous ou alors vous connaissez des personnes qui en ont accueilli? Comment ça s'est passé? Venez nous raconter cette expérience. 04 72 38 20 23. On va faire un petit détour par l'Amazonie avec notre chroniqueur. Et on part au Pérou, plus précisément dans la partie amazonienne du pays. Bonjour Martin Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission Amérique latine au CCFD Terre solidaire. Est-ce que vous pourriez nous détailler quelles sont les menaces qui pèsent sur l'Amazonie péruvienne ?
Bien sûr. L'Amazonie, tout d'abord, c'est moins connu que les Andes au Pérou, mais ça représente plus de 60% du territoire de ce pays. Donc c'est immense, c'est plus grand que la France même, et ça attise depuis longtemps la convoitise des entreprises pour l'exploitation de tout type de ressources naturelles, bois, pétrole, or, même l'eau. Et aujourd'hui, on parle d'un point de bascule, c'est-à-dire que la situation est critique, et la forêt amazonienne n'aura bientôt plus les capacités de se renouveler, et pourrait devenir à terme une savane, donc sous la pression de cette déforestation et des dérèglements climatiques. Et l'agro-industrie, elle contribue largement à cette dégradation de l'environnement. On peut prendre l'exemple de l'huile de palme, qui s'est répandue de façon exponentielle ces dernières années. C'est très utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Et cette monoculture, elle est intensive et elle a des conséquences graves pour l'environnement, puisqu'elle appauvrit les sols, elle assèche les sources d'eau, elle pollue les fleuves et elle a des rejets de pesticides importants qui tuent les poissons.
Alors comment agit le CCFD Terre Solidaire pour protéger l'Amazonie au Pérou ?
Notre ONG, le CCFD Terre Solidaire, il agit à travers le soutien des partenaires locaux, des associations, qui sont engagées auprès des populations. Par exemple, on est partenaire d'une pastorale, la pastorale de la terre de Yurimaguas, qui agit sur plusieurs volets. Le premier enjeu, c'est souvent d'accompagner les communautés indigènes pour qu'elles connaissent leurs droits, avant de pouvoir les défendre. Et le Pérou a bénéficié de plusieurs lois, il a signé beaucoup de conventions internationales, mais voilà, c'est un contenu qui est rarement approprié. Ensuite, ce partenaire, il aide les communautés à documenter les impacts de cette agro-industrie, donc à constater notamment les cas de pollution, de dégradation des cours d'eau, en ayant recours à la photo par exemple, et c'est un travail de preuve, un travail minutieux, qui permet de faire ensuite pression sur les entreprises, mais surtout sur l'État, enfin sur les autorités locales pour qu'elles jouent leur rôle de protection. Et enfin, notre partenaire, il fait un rôle plus large de promotion d'une vision durable de l'Amazonie pour apporter aussi des solutions. Alors on parle d'agroforesterie, agroécologie, parfois des projets d'écotourisme. Ce sont des projets ponctuels, mais au-delà de ça, il y a aussi l'envie de promouvoir une vision du bien-vivre pour les peuples indigènes. Et c'est là qu'on fait du plaidoyer, c'est-à-dire qu'on fait un travail d'influence pour modifier des politiques locales et essayer d'obtenir ces changements de plus grande ampleur.
Merci beaucoup Martin Villaume pour toutes ces précisions sur l'Amazonie. On peut aller plus loin en allant sur le site ccfd-terresolidaire.org. Pascal Dubus, vous êtes toujours avec nous jusqu'à 11h dans cette émission. Je précise que dans quelques minutes, une certaine Ingrid nous rejoindra. Ingrid, elle tient une résidence de tourisme en France et elle s'est décidée avec son époux à accueillir des réfugiés ukrainiens. Voilà, sans frais, bien sûr, hein, sans les faire payer. Et elle nous parlera un peu de son engagement tout à l'heure aux alentours de 10h35. Pascal Dubus, vous accueillez actuellement une famille. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, peut-être nous donner leur prénom, leur âge, pour que nos auditeurs aussi situent un petit peu?
Alors, les gens sont très discrets, oui. N'est-ce pas? Donc, j'ai une maman qui a 38 ans, qui est habitée à Dnipro. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin, c'est au centre de l'Ukraine et ça a été pas mal bombardé. Et elle est là avec son fils qui a 17 ans et qui était au niveau terminal, donc avec une entrée en fac prévue l'année prochaine. Elle a travaillé un peu dans le domaine de l'esthétique et du commerce. Et oui. Aujourd'hui, elle recherche un emploi. Alors, le problème, c'est que la maîtrise de la langue est vraiment un profond handicap. Donc, on a quand même des démarches. Alors, je reviens sur ce que disait tout à l'heure notre...
Daria. Ou Michel.
Daria. Non, plutôt Daria, en disant que il y a beaucoup de gens qui sont volontaires, qui se portent volontaires. Il faut, en fait, savoir qu'il y a deux phénomènes. Enfin, c'est mon analyse, hein, n'engage que moi. Mais c'est qu'en fait, il y a très peu de russophones en France, comparativement au polonais, à l'italien, à l'anglais, à l'allemand, etc. C'est pas une population qui a largement immigré en France dans le passé. Et la deuxième chose, c'est que malgré la bonne volonté, et chez nous on rencontre ce phénomène-là, c'est que malgré la bonne volonté de gens qui peuvent parler le russe, tout le monde n'a pas la méthode d'enseignement. Donc tous les russophones ne sont pas des bons professeurs ou des professeurs tout simplement. Et ensuite, si je prends le secteur ici chez nous, avec 180 personnes qui sont arrivées d'Ukraine, on fait des groupes de 10, ça veut dire que ça fait 18 cours par semaine par deux, ça fait donc 36 cours nécessaires. Il faut déplacer les gens, hein, faut qu'ils puissent aller aux cours parce qu'on est répartis dans les petits villages. Alors on a le président de l'intercommunalité, Monsieur Cotel, à Bapaume, qui a fait des gros efforts pour nous fournir des moyens techniques, etc., qui a vraiment été d'ailleurs le président d'honneur de notre association. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé. On a Régis Leleu, qui est le maire d'un petit village de Biani, qui nous a donné les bâtiments pour qu'on puisse héberger les fringues, les logements, etc., enfin l'alimentation, ouais, etc., pour nous fournir des salles pour les cours. Mais c'est pas facile parce que les gens ne sont pas autonomes en termes de voiture. Alors bon, moi j'ai récupéré une petite voiture, une boîte automatique pour pouvoir la mettre à disposition de la personne qui est chez moi. Il faut l'assurer, il faut la déclarer. Elle est jeune permis. Alors l'assurance elle est bien gentille, mais elle me dit ça va vous coûter 1500 balles d'assurance. Enfin, c'est que des choses comme ça qui sont pas évidentes à gérer. C'est pour ça que je dis qu'il y a une démarche entre l'urgence l'immédiateté de devoir héberger des gens
et la consolidation
et le long terme ouais. Et la consolidation et les cours de français sont indispensables et je trouve que même si l'éducation nationale fait le maximum, n'est-ce pas, on dira qu'elle fait le maximum parce que les pauvres gens qui y travaillent sont bien mal menés, mais globalement ils se sont pas bougés le cul beaucoup pour ces gens-là et voilà et on sait pas comment ça va se passer à la rentrée hein. Aujourd'hui moi j'ai vu des profs très angoissés en disant nos petits Ukrainiens et ça va comment ça va se passer à la rentrée, ils parlent pas français.
J'ai l'impression que ça vous met en colère, Pascal.
Bah, je trouve que la mobilisation, elle est molle. Elle est molle. Mmh. Je veux dire, l'État, il est mou. Alors, j'ai rencontré au service de la préfecture des gens merveilleux, très sympas, vraiment, mais qui est remarquable. C'est-à-dire que les agents, en tant que tels, ne sont pas... On n'a rien à leur reprocher. Mais le système est d'une lourdeur. Je disais hier à la réunion à la députée du secteur que on a une autorisation provisoire de séjour de 6 mois, renouvelable de 3 mois en 3 mois pendant 3 ans. En Angleterre, c'est le visa, il est de 3 ans. Vous arrivez, on vous donne un visa de 3 ans. Moi, j'ai passé 7 personnes, j'ai passé 5 rendez-vous, une demi-journée pour 7 personnes. Heureusement, il y a eu 2 fois 2 personnes. Donc, 5 demi-journées, c'est plus 2 PV parce qu'évidemment devant la préfecture, le parking est payant. Donc, et qu'ils se font un plaisir de venir vous verbaliser. Donc, globalement, tout ça, c'est du temps passé. J'ai été chez le médecin et on y va avec. Il n'y a pas de problème.
Est-ce que vous pensez pas qu'on a été pris de court, hein. Je me fais l'avocat du diable, c'est-à-dire que ça arrivait très très vite quand même.
Oui, enfin bon, je veux dire, ça va, les fausses excuses c'est bon, quoi. D'accord. C'est bon, d'accord. Les moyens de l'État, vous savez qu'à regarder, j'ai mis mon logement sur la plateforme de la préfecture, on a eu, comme d'autres gens, il a fallu qu'ils nous envoient quelqu'un pour vérifier que c'était propre, c'était machin. Enfin moi, mes gamins, ils ont grandi ici, hein, ils sont médecins, chirurgiens, etc. Donc voilà, on n'est pas, on n'a pas besoin de vérifier si c'est. Enfin, il y a peut-être des gens qui font des marchands de sommeil, j'en sais rien, mais globalement, faut arrêter, quoi. Et la procédure, les machins, etc. Et puis, ils ont refusé tous les logements de moins de 2 mois, la préfecture. Hein. Donc, tous les gens qui disaient, moi, je peux les accueillir 2 mois, ah bah non, c'était pas assez. D'accord. Donc, aujourd'hui, ils les ont entassés dans le Formule 1 qui a changé de nom. Et puis, ils vont manger dans un endroit, à Arras, c'est lamentable, parce que l'État, il est en dessous de tout. Il ne fait pas confiance à ses citoyens. Ouais. Alors, les citoyens se sont mobilisés et sont plus efficients que l'État.
On continue d'en parler, Pascal Dubus, jusqu'à 11h ensemble. Dans un instant, une grille nous rejoindra. Vous avez toujours la parole, 04 72 38 20 23, pour nous parler de l'accueil des réfugiés ici en France. À tout de suite.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs. Et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je suis de tous les partis. Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations. Je crie vive la collaboration. Non, jamais, je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Le crack de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Famille Dutronc demande le père et le fils, Jacques et Thomas Dutronc, l'opportuniste. Alors, on connaît la chanson, mais là, c'est un tout nouveau single quand même, extrait du premier album en commun de ces chers Dutronc et Dutronc sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Elle est pas mal cette version, Pascal Dubus.
Oui, oui, ça me fait penser à... C'est une chanson de circonstance de la position française vis-à-vis de Poutine. C'est très drôle. Bon, Pascal... il l'a cherché.
Pascal Lubus, vous avez...
C'était facile.
Vous êtes dans le Pas-de-Calais. Vous êtes où d'ailleurs dans le Pas-de-Calais?
Dans un joli petit village qui s'appelle Courcelles-le-Comte. Il y a 470 habitants et on voit passer les corbeaux. Avant, on voyait passer le tram, mais depuis que la SNCF n'a plus besoin de clients, il n'y a plus de train. Donc maintenant, on fait les corbeaux. Voilà. Non, je dis ça en rigolant parce qu'en fait, on s'aperçoit que on parlait de l'état de ma colère, etc. Mais la SNCF, ça y est, elle a arrêté de distribuer les billets gratuits, quoi. Parce qu'il y a eu des abus, vous comprenez. Ils ont pris le train deux fois, ces gens-là. Donc voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui fait que il n'y a pas de volonté de les intégrer, de les accueillir. Je pense que les gens ont oublié que ça pouvait nous arriver. On est en paix depuis trop longtemps. Et c'est grave, quoi. Voilà, c'est grave. Je trouve que l'État est une position grave. Oui, grave, c'est grave.
Dans quel état d'esprit est-ce qu'ils sont? Voilà, vous avez parlé de cette maman et de son fils qui était en classe de terminale, je crois, en Ukraine. Ils ont envie de quoi? Ils ont besoin de quoi? Est-ce qu'ils ont envie de retourner en Ukraine? Alors là, on est en pleine guerre, donc c'est peut-être un peu compliqué. Mais est-ce qu'ils arrivent à se projeter en France? Est-ce qu'ils ont envie de trouver un emploi, de s'intégrer, d'apprendre la langue? Quelles sont leurs envies?
Et ils sont comme vous et moi,
oui.
C'est-à-dire qu'ils aimeraient bien savoir et que je pense qu'ils savent pas. Donc aujourd'hui, accueillir ces gens-là, c'est tout sauf les infantiliser et les juger. Donc par rapport à l'éducation, les petits-enfants, moi j'ai une famille qui a des petits-enfants de 5 et 7 ans, on n'a rien à dire sur l'éducation des enfants, ils font comme ils veulent, ils sont chez nous, chez eux, hein, mais s'ils étaient chez eux, on n'y serait pas. Donc il faut être extrêmement respectueux des traditions, de la façon de faire, voilà, et je pense qu'il faut vraiment pas les infantiliser. On a rien à leur apprendre. On a tout à gagner d'eux. Ils ont à nous apporter. La deuxième chose, c'est qu'il faut être aussi extrêmement pudique parce qu'il y a des matins où ça descend prendre le petit déjeuner et les yeux pleins de larmes parce que ils ont appris la nuit qu'un copain, un oncle, un tonton, le voisin s'est fait ou que la maison a été détruite. Alors vous posez pas les questions parce que vous attendez qu'on vous en parle. Mais vous savez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. La seule chose qui m'importe, c'est de savoir si tu as bien dormi, si tout va bien, si t'as pas eu trop chaud, trop froid, si t'as encore ta serviette de toilette, du savon, etc. Et tout ce que moi je peux faire pour que ce soit confortable pour eux, je le ferai. Le reste après, ils me diront ce qu'ils ont envie de me dire, quoi. Mais ils ont pas de compte à rendre. Alors après, sur la projection, c'est compliqué. Ma première famille qui était là disait on va pas rester en France à cause de la langue. On part en Angleterre. Moi, je parle anglais, je pars en Angleterre parce que c'est trop compliqué d'apprendre le français. Moi, je leur ai dit, vous partez à l'ouest, vous avez raison. Plus vous irez à l'ouest, plus moins il y aura d'Ukrainiens, moins il y aura de concurrence sur l'emploi et plus vous avez de chances de refaire votre vie si c'est tel est votre projet. J'ai un copain qui est en Pologne, hein, il y a, je crois que ça doit être plus de 3 millions d'Ukrainiens en Pologne. C'est compliqué de trouver du boulot quand il y a déjà 3 millions de gens qui viennent d'émigrer et qui sont tous dans la même situation. En France, on est à 80 000, c'est pas facile pour eux de trouver du travail, déjà c'est pas facile pour nous. Les gens qui sont, les gens qui savent pas lire et écrire en France ont bien du mal à trouver du travail. On a beau être ingénieur ukrainien, si on sait pas lire et écrire, ça va être compliqué de trouver du travail en France. Donc l'accès aux cours de français devrait être vraiment le basique du basique et l'urgence absolue. Oui. Les moyens sont pas mis par l'éducation nationale, ni les moyens techniques en termes de locaux. Hein. Moi, j'ai que notre cher monsieur Cotel et notre association avec Tatiana comme présidente qui nous fait le boulot, c'est de trouver des endroits, etc. Mais à part cette volonté démocratique de gens de la base, il se passe rien. Quoi, hein. Oui. D'accord. Donc, moi, quand j'en parle, elle me dit si ça dure, je veux rester. Je suis prêt à rester ici, mais ça dépendra de ce que fait mon fils, parce qu'une maman sans ses enfants, c'est plus une maman. Donc, si l'enfant veut bien rester, ça ira. S'il veut rentrer absolument, je pense qu'elle rentrera. Mais il faut être prêt à tout, prêt à accueillir ces gens-là. Enfin, aujourd'hui, moi, je lui dis tu restes un an, tu restes un an, quoi.
Ouais.
Tu restes deux ans, pas de problème.
Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui sortent en ce moment sur Internet, j'ai remarqué, de familles qui accueillent des Ukrainiens et qui disent bah en fait c'est quand même dur. C'est dur, ça peut être assez compliqué dans certaines familles. Certains accueillants sont débordés par l'ampleur, la responsabilité. Est-ce que vous avez l'impression que ça a quand même changé votre quotidien? Ça l'a bouleversé? En bien ou en mal, je me permets de poser cette question, hein, Pascal.
Avec ma compagne, c'est clair que entre être à deux dans une maison de 300 mètres carrés ou être neuf, c'est pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. Ouais. Il faut se ménager du temps ensemble. Il faut être respectueux de notre intimité. Il faut être respectueux des objets. Il faut être respectueux de l'organisation. Il faut que chacun trouve ses marques. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai 58 ans. Mes enfants sont grands depuis longtemps. J'ai redescendu les objets que j'avais remontés quand ils avaient 2 ans. Quand vous avez des enfants, petits-enfants que vous accueillez en urgence, il est clair qu'il faut remonter des objets pour éviter d'être déçu qu'ils soient cassés, parce que ce sont des enfants. Et que ce soit les vôtres ou des Ukrainiens, ce sont des enfants, ils sont turbulents, etc. Donc, oui, effectivement, il faut rediscuter du rangement dans le placard, il faut rediscuter de la vaisselle, c'est trop salé. Alors, moi, je mange sans sel depuis toujours, bon, voilà, c'est comme ça.
C'est un autre sujet, Pascal.
Non, mais ils ont une cuisine très salée.
Ah bon?
Donc, il faut se mettre d'accord. Oui, ben voilà. Donc,
vous nous apprenez des choses là. Ouais.
Non mais ce sont que des détails. La vie est faite de détails, d'accord. Donc oui, avoir des gens chez soi, ça n'est pas. Donc tu te marres, mais c'est
non,
vrai.
Non, mais je pensais que vous vouliez commencer un débat sur faut-il saler ou pas ses aliments, mais en fait, ce que vous dites, c'est
sur
son importance.
Le fait que ses habitudes alimentaires.
Parce que
j'ai jamais mangé autant de soupe que depuis qu'ils sont arrivés, parce qu'ils ne mangent que de la soupe.
C'est-à-dire qu'il y a des habitudes à modifier ou en tout cas à adapter des deux côtés.
Bien sûr, évidemment. C'est une vie en commun avec des gens que vous n'avez pas choisis, qui sont d'un niveau culturel, d'un niveau social, d'un niveau d'éducation qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas forcément mieux enfin, qui peut être plus supérieur ou inférieur, peu importe. Il n'y a pas de jugement ni de classement, mais c'est juste un constat. Ce sont des gens qui sont dépendants de vous, donc en fait, il faut réussir à les rendre indépendants et autonomes. Voilà. Moi, je me souviens très bien que la troisième fois où le chef de famille est venu me voir en me disant « Est-ce que je peux me faire un café ?» Je lui dis « Si tu me poses encore une fois la question, je te réponds plus. » Parce que tu vas pas me demander l'autorisation à chaque fois. Tu fais ici comme chez toi. Alors évidemment, si tu me fais 15 cafés dans la journée, peut-être je te dirais, faudra qu'on trouve une solution pour acheter du café pas cher. Mais sinon, tu fais comme chez toi. Enfin, on peut pas accueillir des gens et leur demander qu'ils demandent l'autorisation pour servir des toilettes, servir des chaises. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Et par exemple, pour l'intimité, avec votre épouse. Est-ce que ça a modifié des choses? Je sais pas. Je vous demande, mais vraiment en toute,
Partagé la maison, on a donné un étage à chaque famille, sachant qu'il y a un étage avec salle de bain, donc ils se sont débrouillés, et que le deuxième étage, on a partagé notre salle de bain en disant, le matin, nous, ma compagne essaye de prendre le train quand il passe à 8h15 à Arras pour aller sur l'île, et moi je suis sur place, donc je commence vers 8h, 8h moins le quart, donc on a considéré qu'avant 8h, la salle de bain était nous était réservée, entre guillemets, parce qu'il faut bien qu'on se prépare, et que comme eux sont là à la journée, bon, ils prennent la salle de bain après 8 heures. Bon, bah, on essaye de ranger, on fait un petit placard, j'ai acheté une caisse chez Ikea, ils ont mis leurs affaires dedans, donc ils ont leurs affaires de toilette, on a nos affaires de toilette, et puis, comme dans une coloc, quoi.
Ouais. C'est important aussi de souligner que chez vous ça se passe bien, voilà. Mais c'est parce qu'on lit beaucoup de choses sur internet en ce moment de familles qui sont un peu désabusées par la situation, parce que des familles qui avaient décidé d'accueillir des réfugiés pendant 3 mois, et là le fait est que ça continue, que ça va durer encore longtemps, et qui ne savent pas quoi faire.
Ne pouvez pas accueillir pour 1 mois, 15 jours et 3 mois. Vous pouvez accueillir des gens et après vous verrez bien. Si vous dites aux gens, vous les accueillez pour 2 mois, ça veut dire qu'au bout de 2 mois, vous allez les mettre à la porte.
Oui.
D'accord ? La guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Et ces gens-là n'ont pas la possibilité. Alors, il faut... j'ai entendu dire aussi il y a une différence de traitement entre les Ukrainiens et les pas-Ukrainiens. Enfin, en laissant dire que Sangat et les autres immigrés étaient aussi méritants. Oui, sauf que je pense que le choix d'une immigration économique n'est pas traité de la même manière que le choix d'une immigration due à la guerre. Enfin, l'obligation d'une immigration due à la guerre. C'est pas une question ni de personne. Enfin, moi, j'y vois pas d'amalgame. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de moyens. Donc, si vous les mettez dehors, ils ne peuvent pas aller nulle part.
Ouais.
Ils sont comme chez eux à la rue. Donc, ils ne sont pas venus par plaisir. Ils ont pas... Et en plus, on ne récupère, excusez-moi, mais on ne récupère que les femmes et les enfants.
Ouais.
Les hommes sont au combat. Les hommes sont tous au combat. D'accord. Donc les femmes sont avec des enfants, il n'y a pas d'organisation de garde, c'est pas forcément facile, etc. Je pense que oui, c'est quelque chose qui est. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que on en a eu 7 à la maison et qu'il nous en reste aujourd'hui 2, et que hormis les urgences, je pense qu'on restera à ce niveau-là, parce que je pense que si chaque famille française accueillait 2 Ukrainiens, on accueillerait toute l'Ukraine. Donc il n'y a pas de raison que je voilà. Et ça permet d'être à la bonne mesure du temps passé, de la disponibilité. Des coûts. Il faut savoir que ça coûte, hein, en termes alimentaires, parce que ces gens-là, on les nourrit, d'accord ? Ce qui est normal, même s'ils ne sont pas difficiles et qu'ils ne demandent pas ni du saumon ni du caviar tous les matins. Mais il faut aussi acheter des produits cosmétiques, il faut aussi acheter des produits d'hygiène, il faut aussi acheter des habits, il faut aussi mettre de l'essence dans la voiture. Il y a un vrai coût. Il faut juste ne pas l'ignorer. Et on est dans un pays où, de ce côté-là, l'État ne fera rien pour nous. On le sait, d'accord ? Il y a de la Pologne, les accueillants sont indemnisés. Hein. Ouais. En France, ça n'est même pas évoqué. D'accord ? Mais on fait le boulot de l'État, quand même. Donc, voilà, ça change beaucoup de choses. Je pense que à chacun des accueillants de trouver l'équilibre entre sa vie personnelle, l'intimité qu'il a avec ses enfants, avec avec son épouse, avec son époux. Voilà, moi je trouve que ma compagne a beaucoup de mérite que de rentrer le soir et de retrouver une maison qui est aussi occupée. Voilà, c'est pas toujours évident de pas pouvoir passer un week-end à deux comme on le faisait avant avec nos habitudes de sortie, etc. On a annuler les choses parce que on ne pouvait pas les faire à 4 alors qu'on avait prévu de les faire à 2. On a été faire des visites, on paye les entrées, donc faut savoir qu'il y a des gens qui offrent les entrées gratuites aux Ukrainiens et c'est très sympathique de leur part, mais faut savoir que par exemple sur Arras, les gens qui font le transport des bus entre nos villages et la commune d'Arras qui est à 18 km, non, c'est pas gratuit, même pour les Ukrainiens, hein, d'accord. Donc faut payer, hein. On leur a demandé, mais ils répondent pas, comme ça on sait pas, et les gens payent. Bon, c'est des gens qui payent, c'est pas les Ukrainiens qui payent, c'est nous qui payons,
ouais.
D'accord. Donc, allez.
Pascal Dubus, vous restez encore avec nous, hein, jusqu'à 11h, on a encore plein de choses à se dire, je suis persuadé. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On va accueillir notre chroniqueuse tout de suite qui va nous parler un peu des jeunes. Bonjour Lauriane Clément.
Bonjour Melchior.
Ça faisait à peu près 8 ans qu'on ne s'était pas entendu dans cette
beaucoup
émission.
Beaucoup trop longtemps.
Beaucoup trop longtemps, Lauriane. Vous êtes
ne faites plus jamais ça.
Non, c'est vous aussi. Vous êtes journaliste pour Phosphore Magazine. Et de quelle initiative voulez-vous nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du Challenge Cubes. C'est un programme qui aide les élèves à traquer le gaspillage d'énergie dans leurs établissements.
Et comment ça fonctionne ?
En fait, ce sont deux organismes, le CEREMA et l'Institut français pour la performance du bâtiment, qui ont décidé d'accompagner pendant 5 ans tous les collèges et lycées qui le souhaitent. Mmh. Donc en gros, ils leur fournissent des conseils pratiques, des formations, des instruments de mesure, donc par exemple des caméras thermiques. Et avec tout ça, ils arrivent à faire leur propre diagnostic énergétique. Donc depuis 2019, plus de 700 établissements scolaires ont participé à ce programme. En moyenne, ils parviennent à une baisse de 10 à 12% de leur consommation d'énergie, et ce, en seulement 1 an. Donc moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et ça, ça permet de faire de belles énergies, Melchior, parce
économie,
que ça représente
économie.
Tout de même... Oui, c'est vrai, de belles énergies, économie d'énergie, parce que ça représente, donc pour les collèges, 5 600 € épargnés, et 15 000 € pour le lycée. Donc ça permet de faire ses économies, mais surtout ça leur permet de réduire leur empreinte carbone, parce que c'est ça aussi le but, et d'agir pour l'environnement.
Et concrètement, quel type de changement justement réalise-t-il ?
Je suis justement allée voir ce que ça donnait au lycée Blaise Pascal à Orsay. C'est un des premiers lycées d'Île-de-France à s'être lancé dans ce challenge il y a 3 ans. Chaque année, ce sont une quinzaine d'élèves volontaires qui se passent le relais au gré des départs et des arrivées. Donc au tout début, ils ont commencé par faire un diagnostic complet de la consommation d'énergie de leur établissement. Donc par exemple, ils ont relevé les compteurs installés exprès dans les salles et les couloirs. Puis ils ont travaillé main dans la main avec Benjamin, c'est le super électricien du lycée, pour faire un inventaire hyper fastidieux de chaque bloc néon installé dans les salles. Donc je vous donne une petite devinette, Nélector, essayez de deviner combien il y en avait.
Je dirais un peu plus de 1050. Ah ben je dis que ça comme ça.
Vous êtes trop fort. 1062 exactement blocs néon. Donc imaginez les pauvres à les compter un par un. J'imagine même pas le temps que ça leur a pris. Mais c'était utile parce qu'ils ont remplacé tous ces néons par des LED, qui sont moins énergivores, comme vous le savez, et plus durables. Mmh. Et ça a payé. En une année seulement, ils ont tenu 18% d'économie d'énergie et 60% rien que pour la consommation d'électricité de leur gymnase.
Bah, on peut dire en tout cas qu'ils ont beaucoup d'énergie, ces jeunes. En tout cas, ils ont été tenaces.
C'est vrai, c'est sûr. Et ils ont aussi mené une grande campagne de sensibilisation à destination des élèves et des profs. Dans les couloirs du lycée Blaise Pascal, on peut par exemple apercevoir des affiches colorées dessinées soigneusement à la main qui clament « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» en montrant une main en train d'appuyer sur un interrupteur. Et Raphaël, l'un des jeunes que j'ai rencontré, m'a raconté d'ailleurs qu'il a même sensibilisé son père, parce que celui-ci oubliait tout le temps d'éteindre la lumière dans l'escalier de chez eux. Bref, toutes les actions de ces lycéens leur ont permis d'obtenir le prix de la meilleure animation du Challenge Cubes, parce qu'en fait, le programme récompense chaque année les établissements les plus motivés. Et alors, si vous connaissez des élèves et des établissements qui veulent s'engager dans des actions concrètes pour la planète, vraiment, n'hésitez pas à leur dire de s'inscrire sur le site. Donc, c'est cube-s.org.
Je suis sûr que ça va en inspirer plus d'un. Merci beaucoup, Lauriane Clément. On vous retrouve tous les 15 jours dans les pages de Phosphore, le magazine des jeunes qui se bougent, bien sûr. Avec cette semaine, un dossier qui nous fait découvrir les coulisses d'une loi, en l'occurrence celle qui a été adoptée en 2021 sur la maltraitance animale. Et on peut aller retrouver plus d'informations, Lauriane, sur le site phosphore.com. Pascal Dubus, voilà, qui nous donne aussi un petit peu d'énergie hein, pour terminer cette émission ensemble. Je ne sais plus ce qu'on disait ensemble. De toute façon, on parlait de l'accueil des réfugiés ukrainiens. J'ai l'impression quand même que vous arrivez à vous organiser, mais au niveau de l'État, des préfectures, c'est un petit peu plus délicat. Pascal, c'est quelque chose que, enfin, vous n'êtes pas seul à le dire, hein, ce sont des remontées de terrain aussi.
Non, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens veulent agir, les gens qui peuvent. Je fais partie des gens qui ont la chance de pouvoir parce que techniquement, j'ai matériellement la possibilité d'accueillir des gens chez moi et que financièrement, je dois faire partie des gens qui ont la possibilité de partager un peu et que cette personne pendant un certain temps ne va pas me faire basculer. Il y a des gens qui sont pas dans cette situation-là, qui ont des salaires modestes, qui ont des appartements modestes. On l'a vu pendant le confinement, hein. Moi, confiné sur un terrain d'1,5 hectare, ça s'est bien passé, hein. d'accord, par rapport aux gens qui sont avec deux enfants dans 40 mètres carrés. Donc c'est tout, c'est pas la même réalité. Je pense que chacun peut agir en étant un participant. À son niveau, y compris en participant aux activités qui sont faites autour de l'Ukraine, aux concerts, etc. On a des gens sur l'île, il y a beaucoup d'activités sur l'île, les Ukrainiens de l'île, il y a des clubs sur l'île, il y a beaucoup de gens. Si vous regardez sur Facebook, vous allez trouver énormément d'activités, il y a du caritatif, etc. Donc c'est pas une question de misérabilisme, c'est une question de ne pas laisser tomber. La guerre n'est pas finie. Alors le problème, c'est que les médias en ont beaucoup parlé au début, ben évidemment comme d'habitude, et ça devient un peu le marronnier, donc on en parle plus tous les matins, ce qui fait que les gens se lassent un peu, et c'est toujours les mêmes informations, puisque ça ne parle que de mort et de destruction. Hein. Bon, donc voilà. Mais il n'empêche que pour ces gens-là, aujourd'hui, rien n'est fini, et on ne sait pas quand ça va se terminer, et qu'il faut poursuivre l'effort. C'est-à-dire qu'il faut que chacun reste vigilant, de manière à ce que on reste mobilisé et que chacun le fasse à sa mesure. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je pense que les gens des services de l'État sont des gens serviables. Nos fonctionnaires, on a des fonctionnaires d'une très haute qualité. Hein. Mais comme disait Clémenceau, c'est les plus hauts placés qui servent le moins, c'est comme les livres d'une bibliothèque, n'est-ce pas? Donc ce sont bien les fonctionnaires de base qui font le boulot, et ces gens-là font vraiment un très bon travail. On pense que l'État, la SNCF, l'OFI, etc., ce sont des gens qui se bougent pas trop, quoi. Hein, voilà, pour être un peu nerveux. Voilà.
En tout cas, moi, j'aimerais vraiment déjà souligner votre engagement, Pascal. Je me permets celui également de Daria qu'on a entendu tout à l'heure. On devait avoir une certaine Ingrid, bah finalement ça a pas fonctionné, mais c'est pas grave. J'aimerais rappeler aussi qu'il y a des associations nationales qui travaillent vraiment sur cette question. Je cite Singa, la CIMAD, et je vous invite à vous rapprocher de vos mairies aussi pour vous engager à hauteur de vos moyens, à votre niveau, que ce soit pour accueillir des réfugiés chez vous ou même encore pour des distributions alimentaires, de matériel. Je pense qu'il y a de quoi faire, comme vous l'avez dit, Pascal. Un dernier mot, vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous faites ?
Je suis à 100% bio, je fais la pomme de terre, de la carotte et du blé bio.
Bon, vous m'enverrez une petite caisse ?
Bah, je préférais que vous l'achetiez, parce qu'en ce moment, le bio, c'est pas terrible, et qu'on a besoin de chiffre d'affaires.
Eh bien, avec plaisir, Pascal Dubus. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant une heure. Merci à Antoine également et Robin, Catherine qui ont permis la réalisation de cette émission. Merci pour votre franc-parler, Pascal. Hein. Je me permets de le dire, ça a été également souligné par nos auditeurs. Demain, alors c'est le jeudi de l'Ascension, j'aurai pas la joie d'être avec vous. Moi, je vous retrouverai ce lundi 30 mai en direct. On parlera du synode. Sur la synodalité organisée dans l'Église catholique. On verra un petit peu si les fidèles ont répondu à cette grande consultation pour imaginer l'Église de demain. Ce sera lundi 30 mai entre 9h et 11h. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez la chance de faire le pont de l'Ascension, on va passer un très très bon week-end, toujours avec RCF. À tout bientôt.